Ahimsa, non-violence.
Humilité, tolérance,
respect,
compassion.
Ahimsa, non-violence, le magazine qui rend la vie positive. Bonjour à tous, il est 15h, vous êtes sur les ondes de Radio 666. C'est le 99.1 FM ou le 99 hein, pour les amis de Suisse ou de Belgique. Voilà, ne vous sentez pas perdu si vous écoutez ce podcast qui est aussi réécoutable en fait sur toutes les plateformes de streaming, notamment vous l'avez sur la chaîne Odyssée. Allez voir là, notre chaîne Odyssée Ahimsa Podcast pour écouter toutes les émissions précédentes. Aujourd'hui, c'est le numéro 36 de ce magazine, commencé il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous allons parler carrosserie moto. Ça va être le titre là, c'est un tutoriel DIY pour entretenir sa moto. On va faire des petites séries comme ça. Là c'est le premier. On avait déjà eu une émission avec Paul qui fait de la peinture époxy. On avait commencé à aborder un petit peu des choses comme ça sur la peinture époxy, ce que c'était. Là aujourd'hui on est avec un carrossier qui va nous donner en fait toutes ces petites astuces pour pouvoir prendre soin de la moto, bien l'entretenir, et aussi pour pouvoir faire des petites rénovations éventuellement s'il y a eu des choses mal faites au niveau de la peinture de la moto. Voilà, donc ça va être à peu près une bonne partie de cette émission. Ça va être le début de l'émission en fait. On a un petit enregistrement là de 30 minutes qui a été fait avec Félix. Donc on va commencer par s'écouter ça, et puis après on verra bien comment on termine cette émission. On va aussi écouter de la musique. Voilà, il y a une petite playlist musicale qui va commencer dès maintenant et qui va rythmer aussi cette interview sur l'entretien moto. Donc on va commencer avec un premier titre, une petite sélection rock, rock'n'roll, que j'ai faite aujourd'hui. On va commencer avec un des morceaux du nouvel album de Quicksand. Ça a été sorti l'année dernière, en 2021, donc c'est pas l'année dernière parce qu'on est en 2024 quand même. Il faudrait que je me mette à jour un petit peu moi sur les dates, mais c'est leur dernier album qu'ils ont sorti et qui s'intitule Distant Population. Voilà, donc pour ce groupe originaire de New York, hein, qui officie un style, on va dire, de post-hardcore. À la base, c'était avec des membres du groupe punk hardcore Gorilla Biscuits. Je crois pas qu'on ait écouté de Gorilla Biscuits encore dans ces émissions. Bon, on a écouté un peu de hardcore, de punk, hein, c'est arrivé. Et bientôt, il faudra qu'on se programme un morceau de Gorilla Biscuits. Mais là, on continue avec le groupe qui est venu après, avec leur guitariste. Hein. On va écouter un titre de leur tout dernier album, comme je disais, Distant Population. On écoute le troisième de cet album qui s'intitule Colossus. Et maintenant, on continue l'émission Ahimsa, le magazine sur Radio 666, que vous pouvez aussi réécouter en podcast sur la chaîne Odyssée, sur Mixcloud, sur Spotify, sur Amazon Podcast et bien d'autres encore. Donc aujourd'hui, avec notre invité, on va parler un petit peu bécane, moto, et le thème, ça va être comment bien entretenir sa moto, l'entretenir au niveau de la partie carrosserie, au niveau de l'habillage de la moto. Voilà, donc je suis avec notre invité, Félix. Salut Félix, comment tu vas ?
Ça va très bien, et toi ?
Ça va bien, merci. Je suis très content de te recevoir et de faire encore une émission avec un invité. Ça faisait longtemps que j'en avais pas trop fait. Donc aujourd'hui, le thème moto. Voilà. T'es un motard toi aussi ? Tu roules avec quoi comme moto ?
Ouais, motard depuis mars 2018. Je roule avec un petit Honda CMX 500. Perso, custo, bien comme il faut, comme on aime quoi.
C'est pas que ton métier est d'entretenir les carrosseries, donc je pense que tu aimes aussi avoir des motos avec des belles couleurs, quoi. Tu te fais plaisir, en tout cas, au niveau de la peinture des motos, non ?
Ouais, complètement. On essaye de mixer les peintures qu'on voit, par exemple, sur certaines voitures, des trucs assez intéressants, genre Mercedes, aussi des camions, Scania. On arrive à faire des trucs assez intéressants, assez personnalisés, que personne ne voit. Même les concessionnaires se disent « Mais c'est quoi cette couleur ? C'est n'importe quoi. » C'est trop bien.
Bon, bah cool. Alors, un petit peu, on va essayer de voir des questions pratiques, mais aussi bah, aller au truc, à l'essentiel de l'entretien de sa moto carrosserie, voilà, parce que bon, c'est l'été, on aime bien avoir une belle moto qui est brillante et qui reflète l'éclat du soleil. Voilà, donc ça dure environ 30 minutes. Hein. Après, on a pris la route, elle est pleine de moustiques, elle est pleine de... Voilà, c'est ça un peu le... Ce qui est chiant avec la moto aussi, c'est qu'on est souvent à devoir l'entretenir parce que ça se salit très vite, quoi.
Ouais, c'est important. C'est important, après chaque balade, au moins d'aller faire un petit coup de Karcher. Karcher chaud, bien sûr, super important, histoire de dégager la plupart des moustiques, des fientes de moineaux, etc. Tout ce qu'on aurait pris sur la route, les petits gravillons, la petite merde qui se met en dessous du carter moteur. Voilà, hein, après, passage.
Et donc, toi, tu dis Karcher sur la moto, on peut. Moi, j'ai jamais voulu faire de Karcher sur ma moto. J'essaie plutôt plus le jet d'eau avec une éponge spéciale. Avec du liquide vaisselle, quoi, tu vois, avec un savon, quoi.
Bon, les deux écoles sont bonnes. J'ai toujours préféré le Karcher parce que plus de puissance au niveau du jet. Bien sûr, faut être pas trop près, sinon on risque de faire des décollements de matière avec la peinture, etc. Mm-hmm. Mais Karcher chaud, ouais, je recommande, c'est plutôt pas mal.
Karcher chaud ?
Ouais, c'est le Karcher à l'eau chaude.
Ah, d'accord.
Avec de l'eau chaude. Ouais. Moi, je le mets toujours sur le tuyau d'arrosage, ça sort froid. Hein. Comment, je savais pas qu'il y avait des Karcher chauds, tu vois.
Ouais, c'est bon. Ouais,
mais on peut pas avoir ça c'est chez soi, non ça se trouve dans le commerce, des Karcher chauds.
Alors oui, ça se trouve dans le commerce, mais le plus intéressant, c'est d'aller directement sur les stations de lavage qui sont à côté de chez nous. La plupart proposent de l'eau chaude dans les Karcher, donc ça, c'est très bien. Ouais, avec des produits qui sont pas trop agressifs pour nos motos, comme pour les voitures. À éviter quand même les produits aluminium à la con qu'ils ont, ça on évite, on va prendre leur mousse traditionnelle, c'est très bien, et puis ensuite on va faire un petit passage à la maison avec 2-3 produits, l'histoire de faire briller, et surtout enlever les traces de gouttes sur les sur tout ça.
Parce qu'en fait il y a le... comment c'est, du tartre un petit peu, non, qu'il peut y avoir dans le... pas le chlore de l'eau, mais des fois c'est un petit... c'est ça qui fait des... qui laisse des marques après quand la moto, on la sèche pas, quoi.
C'est du calcaire.
C'est du calcaire.
Calcaire de camp surtout. Calcaire de camp surtout. Ouais, non. On va surtout essayer d'avoir une microfibre propre sur soi à chaque fois. Un petit coup de Karcher, on met un petit coup de microfibre sur toutes les parties carénage de la moto ainsi que les plastiques. Puis à la maison, on va pouvoir peaufiner un petit peu plus si jamais on a besoin.
Donc un premier coup comme ça pour enlever les gros trucs, hein, parce que c'est vrai que voilà, souvent c'est les moustiques, les machins. On enlève tout ça à l'eau avec un petit produit nettoyage, un dégraissant, disons, comme du savon dedans, par exemple. Et après, un rinçage sur ça. On l'essuie avec un chiffon. Donc là, tu dis microfibre. Hein. Donc,
On a déjà eu le cas, par exemple, de personnes qui disent « Ouais, microfibre, ça raye. » Alors, ça dépend comment tu l'entretiens. Enfin, ton microfibre, faut que tu le mettes dans une pochette, un truc propre, sinon tu vas m'incrustrer du sable dedans, ce genre de choses, et forcément quand tu vas venir frotter sur ta carrosserie avec ton microfibre plein de sable, t'étonnes pas si t'as des rayures.
C'est du papier de verre, quoi, dans ce cas, c'est ça. Et le microfibre, on peut le laver avec... on passe en machine des fois pour l'entretenir.
Passe en machine direct, y a pas de soucis là-dessus. Ouais, c'est bon.
D'accord, et après, pour finir, voilà, là, après c'est peut-être plus rentrer un peu plus dans les détails, mais comment on fait une belle petite finition après sur la moto pour éviter que ça se ressalisse, que ça se garde un aspect propre le plus longtemps possible, quoi.
Bah, y a des produits qui existent dans le commerce qui sont vraiment très très bien. Ayant testé un produit qui coûte peut-être un petit peu cher, qui vous connaissez probablement, c'est Vulcanet, qui propose des lingettes pré-imbibées d'un produit nettoyant et protecteur. Donc sur le long terme, c'est vachement bien. Avec un petit microfibre d'ailleurs qui est fourni dedans. Donc on passe la lingette sur toutes les surfaces de la carrosserie qu'on souhaite nettoyer correctement, remettre à neuf. Un coup de microfibre, leur microfibre est très très bien, on passe dessus et puis c'est nickel pour la prochaine balade.
D'accord. Après voilà aussi, bon ça c'est sur les parties, on aurait peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, mais ça c'est plus sur les parties plastiques on va dire de la moto.
Non.
Pas forcément, ça peut être sur toutes les surfaces.
Toutes les surfaces, franchement ce produit, comme je disais, il coûte peut-être un petit peu cher, on peut le trouver entre 40 et 50 euros selon les revendeurs. Mais il y a pas mal de matière dessus, on en a pour l'année, même si on sort tous les jours et qu'on nettoie la moto, disons 3-4 fois par semaine, 2-3 lingettes pour nettoyer l'intégralité de la moto, sur toutes les surfaces, même les tubes de fourche. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Si on a la flemme de passer par exemple au Karcher, bon, forcément, faudra peut-être frotter un petit peu plus, mais le produit premier permet d'enlever tous les moustiques sur les optiques de phare, notamment. Assez facilement, en 2-3 gestes, c'est fait. Il n'y a pas besoin non plus d'être un bourrin de l'huile de coude.
D'accord. Et ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on a différentes parties sur la moto. Tu vas avoir des parties qui vont être chromées. Ouais. Bon, là, pour ça, voilà, ça s'utilise, tu disais, ces produits-là.
Alors, les parties... c'est intéressant, oui. C'est intéressant d'appliquer ça pour nettoyer les chromes une première fois. Mais les chromes, l'histoire de les entretenir correctement, il y a la technique de la grand-mère, la paille de fer 000, avec un peu de belle gomme et beaucoup d'huile de coude, histoire de refaire griller les chromes si vraiment ils sont usés. Attention, ne pas trop frotter, histoire de ne pas percer la matière. Mais ça a toujours très très bien marché. Pareil pour les tubes de fourche. Imaginons qu'ils soient légèrement surpiqués de rouille. Légèrement, des petites pointes de rouille par-ci, par-là, rien de grave. On va chercher du belle gomme avec un petit peu de paille de fer. On frotte bien, 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 bien. Ça va revenir correctement. Si vous avez peur, par exemple, d'abîmer vos joints spi, les joints spi fourches, vous mettez un petit peu de bandage dessus, du scotch, ce genre de choses, vous allez pouvoir frotter tout autour, au plus près du joint spi, sans l'abîmer.
D'accord. Donc, ouais, bah, le bel gomme chrome, ouais, on trouve ça dans les magasins moto. La 000, là, le papier, alors reprenez, c'est pas le truc comme. C'est pas la paille de fer de la cuisine. Hein. Faut vraiment pas prendre un truc comme ça. Hein. Non. On se dit, oh, j'en ai pas trouvé, bah, je vais prendre la paille de fer au rayon ménage. Non, non, tu fais pas ça.
C'est nickel. Non, paille d'acier, c'est ça. 000. Ouais. On peut choper ça en magasin de bricolage, ils vendent ça pas trop trop cher.
Ouais, ils en vendent, ouais.
Ouais, ouais, ouais. Puis on en a plutôt pas mal, vraiment. Je dirais que t'en as pour peut-être 10 ans.
Ouais, ça dure, hein, parce que t'en prends un petit bout. Bon, voilà, c'est un peu plus volumineux au début, après ça devient très plat, quoi. Faut le changer. Mais voilà, c'est un truc, c'est comme une mousse, en fait, au niveau de la texture. Hein, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, attends, faut prendre un truc comme ça, quoi. Ouais, tu le déchires.
C'est ça, c'est exactement ça. Il y a aussi le côté vert des éponges, ça peut fonctionner, une vieille éponge toute pétée, ça peut fonctionner, mais vraiment paille de fer, paille d'acier 000, trop bien. Ouais.
Voilà, c'est ça, ça coûte pas cher, on trouve ça partout, quoi, dans les magasins de bricolage. Ok, bah écoute, on va écouter un petit morceau de musique, et puis on va continuer avec toi avec d'autres questions, ça roule. On continue après cette petite pause musicale sur notre thème de l'entretien, carrosserie, habillage de la moto. Alors c'est vrai que sur une moto il y a différentes parties et différentes matières. Hein. Il y a des parties qui vont être, comme on a dit, le chrome, des parties un peu plus métalliques. Après des parties métalliques mais qui vont être peintes avec une peinture au-dessus. Donc on va pas passer la 000 sur du métal qui a été peint. Et après il y a les parties qui sont soit fibre de verre, des fois il y a du carbone. C'est ça un petit peu, qu'est-ce qu'on retrouve en fait? Est-ce qu'il y a des différences d'entretien sur ces différents matériaux?
Oui, bon, la plupart du temps, les carbones, ils peuvent être vernis à même titre que les réservoirs, donc la peinture, etc. Donc ça sera à peu près le même traitement. Pour ce qui est plastique, bah, comme on a vu précédemment, on va passer des petites lingettes, on va mettre un coup de Karcher dessus, ça sera très bien, un coup de microfibre. Et puis voilà, ça sera comme neuf. Mais à part ça, non, oui, il y a des parties en fibre, comme on a pu... Mais ouais, non, c'est pareil, c'est vernis ou alors c'est peint, donc ça va être à peu près le même traitement que le réservoir.
Voilà, c'est ça, parce qu'après, au final, c'est qu'on a toujours une couche de peinture et un vernis dessus. Donc finalement, l'entretien, les choses à savoir sur l'entretien de sa moto, c'est comment on va bien prendre soin de cette peinture vernie, quoi. Et il y a un petit truc souvent, tu sais, c'est de passer un coup de polish.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, bah, c'est quoi ça?
Le passage au polish, on va utiliser en gros une disqueuse sur laquelle on va monter un patin en mousse la plupart du temps, avec des produits légèrement abrasifs, mais vraiment très légèrement abrasifs, c'est pas du papier de verre, on va pas déconner là-dessus. Puis on va passer ça sur la carrosserie de la moto pour faire briller davantage et effacer certaines micro-rayures.
Comment ça fonctionne en fait? C'est parce que tu as fait une micro-rayure sur ta moto. Du coup, en fait, ce polish, ça va venir poncer en fait cette micro-rayure et ça la fait disparaître par abrasion. Ouais. Voilà, en fait, on voit plus le trait qu'il y a, mais les bords au niveau microscopique, les bords ont été enlevés.
Oui, c'est ça. C'est en gros, faut se dire que on va poncer une petite partie de notre vernis. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir répéter tous les jours. Au bout d'un moment, du vernis, il n'y en aura plus, on va attaquer la peinture. C'est vraiment un truc assez exceptionnel. C'est vraiment le réservoir est blindé de micro-rayures. Je dis bien des micro-rayures. Pour les rayures, c'est encore autre chose. Et là, on va pouvoir les rattraper. Mais bon, c'est quelque chose à faire peut-être deux fois par an. Et encore, après, il va falloir refaire un voile de vernis dessus. Si jamais on a trop attaqué le vernis.
D'accord. Donc un voile de vernis, on repasse. Est-ce qu'on peut repasser un petit coup de vernis nous-mêmes des fois, faire ça, ou c'est toute une technique hein, d'utiliser une bombe de vernis par exemple.
Bah, si on veut le refaire soi-même, faut quand même un petit peu de connaissances. Bien sûr, on peut pas se lancer là-dedans si on n'est pas un peu bricolo. J'ai envie de dire, il faut connaître deux trois choses. Il faut reponcer l'intégralité de la surface avec du grain très très fin, histoire de recréer des micro-rayures pour que le vernis puisse adhérer correctement à la peinture. C'est surtout ça.
Oui, et puis après, même moi, tu vois, je voyais sur un petit projet que j'avais fait, rien que d'utiliser une bombe de peinture, comme ça, quand tu l'as pas fait, bah, c'est pas facile, rien que de mettre de la peinture à la bombe. Ton premier réflexe, ça va être bon, tu mets une première couche, t'essaies de bien couvrir, mais ça goûte, quoi, ça va. Après, il y a tout qui tombe et tout. Faut juste mettre un petit trait, passer comme ça, ouais, attendre 10 minutes après, t'en remets un. Mais c'est une technique, en fait, à avoir ça. C'est. Voilà.
C'est. Concrètement, donc une fois qu'on a poncé la surface, et imaginons qu'on veut refaire une peinture dessus, changer de couleur, pourquoi pas. Je l'ai déjà fait à la bombe, ça marche, mais par contre, on va avoir un effet peau d'orange. On n'aura pas un fini absolument parfait qu'on peut avoir, par exemple, chez certains professionnels. On aura un effet peau d'orange. Pour éviter ça, il faut avoir le matos, en fait. Il faut avoir un pistolet à peinture. Faire ça à la bombe, ça va être très compliqué. Il va falloir vraiment charger. Et si jamais on ne maîtrise pas le geste, on va couler.
Et juste pour finir, peut-être sur la partie polish, là, alors ça, c'est un truc qu'on peut faire chacun chez soi, au moins une fois par an, peut-être, ou une fois tous les deux ans, on va dire, pour y aller tranquillement, quoi. Donc, quel matos on achète? Il nous faut une disqueuse, par exemple, on met un. Disqueuse.
C'est pas une disqueuse. Tout à l'heure, je parlais de disqueuse pour imager, mais ça va être directement une polisseuse qu'il va falloir prendre dans le commerce, donc ça peut vite coûter 100 balles, 150 balles. C'est un investissement certes, mais dites-vous que ce sera peut-être plus rentable que d'aller chez son carrossier, qui va facturer ça beaucoup plus cher. Beaucoup, beaucoup plus cher par rapport aux produits, etc., etc., la main d'œuvre, parce qu'il faut dire aussi que c'est assez long.
Ouais, c'est ça.
C'est assez long. Si on veut faire les choses correctement, c'est assez long. Être très doux avec la machine, on pose la machine sur réservoir, on la met en fonction, pas trop vite au début, avec un petit peu de produit dessus, et on y va tranquillou. Le but, c'est de faire... faut pas trop faire chauffer ton vernis, sinon tu auras la possibilité de bulle légèrement. Ça, on essaye d'éviter un maximum, donc on y va tranquillou, on passe un petit quart d'heure sur la surface, avant de remettre un petit peu de produit, si jamais on voit qu'il n'y a pas assez de produit. On en remet un petit peu. Entre deux passes de produit, on va passer un coup de microfibre propre dessus. Ça va le dégueulasser, mais c'est pas grave, on va le mettre à la machine juste après. Et vous allez avoir un finish absolument parfait, comme sortie de concision, peut-être même mieux.
D'accord, ouais. Mais voilà, comme tu dis, c'est une technique à chaque fois, tous ces trucs-là, et ça s'apprend, hein, c'est comme tout.
Ça s'apprend, bien sûr. Mais voilà. Je pense que c'est l'une des choses peut-être les plus simples, c'est vraiment tout le monde peut faire, le polish, faut vraiment être doux. Je suis sûr et certain qu'il doit y avoir des tutos sur internet, bien sûr, sous forme de vidéos ou même de forums, par exemple, très très explicatifs.
Bah, c'est vrai que ça maintenant avec sur YouTube, il y a plein de choses. Tu sais pas faire, tu vas sur YouTube et t'as plein de mecs qui ont fait des vidéos
bien
sur
sûr.
Ça. Et bon, ça, pour ça, c'est pas mal. On peut faire beaucoup plus de choses nous-mêmes, tu vois, avant de choper les revues techniques. Les revues techniques, c'est toujours pratique pour plein de choses sur les motos. Mais avec YouTube, on a pas mal de choses aussi.
À la base de ça, hein, pour certains entretiens sur la moto, l'entretien du carbu, etc. Sur les vieilles bécanes, en tout cas. Maintenant, on est passé sur les injections depuis quelques années. Mais renseignez-vous là-dessus, lisez des bouquins, il n'y en a pas des masses non plus qui sont... il y en a 3-4, je crois. 3-4 qui sont vraiment très intéressants pour l'entretien général de sa moto. Mais
Ok. Et tu disais, bon, le polish, par contre, ça marche pas. C'est sur les micro-rayures. On a une rayure sur notre moto. Ouais. Bon, là, c'est un autre délire. Là, faut attaquer un peu plus le ponçage.
C'est un autre délire. Si on se sent d'attaque, on peut le faire soi-même. C'est-à-dire que, imaginons, on a foutu un coup de clé sur le réservoir pendant qu'on faisait le plein. Non, je parle pas de vécu. Faut regarder la couleur de la peinture. Imaginons, on a un réservoir noir. Si la rayure est restée noire, légèrement profonde, mais restée noire, on va pouvoir faire quelque chose. Si jamais on a attaqué le réservoir, et imaginons qu'on a, vraiment attaqué, on voit le métal à travers, ou même une couleur peut-être un peu plus claire, ça va être l'après, après époxy, la plupart du temps sur ce genre de choses. Là, il n'y a pas d'autre solution, il va falloir se passer chez un professionnel, ou alors, bon, si vous sentez d'attaque, il faut refaire une couleur.
Ok, est-ce qu'il y aurait d'autres trucs comme ça à voir un peu sur les rayures ou,
ouais. C'est, ouais, ou... bien sûr. On peut parler des rayures où est-ce qu'on n'a pas traversé entièrement la peinture, on a juste traversé la première couche de vernis et légèrement la peinture, mais on n'a pas touché à l'après. Là, on va pouvoir faire quelque chose. Pour les plus bricoleurs d'entre vous, on va prendre du papier à poncer et on va poncer à holo la surface. Sur une surface, imaginons notre rayure, elle fait 5 cm, on va poncer un petit peu plus large pour effacer le défaut. On va poncer à l'eau avec du 400, du 600, du 800. On va passer au 1000 à l'eau, 3000, si vous voulez, 8000, pourquoi pas, avec du Trizac. Et on va pouvoir refaire un petit polish par-dessus, et ça sera effacé.
D'accord. Ok. Bon. Et après, si on a, par exemple, sur les bas de fourche de la moto, des petits pets, tu vois, de grains de cailloux, de choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi?
Les bas de fourche de votre moto, ça dépend. La plupart du temps, on va mettre. C'est une peinture qui est un petit peu plus résistante en général, parce que c'est la première ligne avec votre garde-boue avant. Les petits pets là-dessus, moi je conseillerais de refaire une peinture un peu plus solide là-dessus. Pourquoi pas un Raptor, c'est intéressant, un Raptor. Une peinture un peu texturée pour ceux qui connaissent. En bombe, ça marche très bien. On se met un petit peu loin, histoire d'avoir un rendu légèrement texturé, on se rapproche un petit peu plus, on fait plusieurs couches et on veut un rendu très texturé, type comment je dirais, plus texturé que moins lisse en fait, sur tout ça.
Ouais. D'accord, ok, bon bah je te remercie, on refait une petite pause musicale et puis on va refaire une dernière partie avec un peu plus des cas pratiques. Allez, à tout de suite. Allez, on continue le magazine AIMSA sur Radio 666 en compagnie de Félix pour notre partie, notre émission, notre thème plutôt de l'émission aujourd'hui sur l'entretien de la moto, l'entretien carrosserie de la moto. Maintenant, on va passer sur des cas pratiques un petit peu, d'autres dernières questions comme ça pour terminer. Il y avait un truc que je voulais te demander aussi tout à l'heure, tu vois, on a fait la balade, après on a bien nettoyé notre moto après la balade, on la met au garage, et souvent ce qui se passe, c'est qu'elle reprend de la poussière. Ouais. La moto se refait empoussiérée en étant garée, alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ça?
La traditionnelle bâche qu'on va installer, une grande bâche comme ça, ça doit pas coûter si cher que ça. J'en avais une à 25€, je crois, sur Motea.
Ouais.
Très très bien, ça fait le taf. J'avais eu un problème de souris qui viennent grignoter la vache.
D'accord.
Ouais, donc ce genre de choses. Ouais. T'as les souris qui ont monté sur la moto, ils ont défécué partout. J'étais au bois. Super. Donc, un truc anti-parasite, ça peut être intéressant à la base de la moto, ou à arrière ou à avant, juste en bas. Et puis voilà, problème réglé.
Ok, et il n'y a pas ce problème des fois avec la bâche, tu sais qu'il y a de l'humidité qui se forme et qui vient te piqueter ta moto parce que la bâche a été mise?
Ça dépend où est-ce qu'on l'entrepose, la moto. Si c'est en garage ouvert, forcément, elle va prendre un petit peu la rosée. C'est une certitude. Mais si on l'a bien nettoyé correctement, etc., qu'on a mis les bons produits dessus, faire en sorte que l'humidité ne prenne pas trop les métaux, normalement, ça se passe bien. Si jamais, au pire des cas, vous êtes un peu réticent là-dessus, vous dites « Ouais, non, j'ai passé tous les produits, certes, d'accord, bon, peut-être des conneries. » On va mettre, tu sais, les trucs... Quand t'achètes une paire de chaussures, la plupart du temps, ils te mettent des sachets anti-humidité, ce genre de choses. T'en mets 2-3 sur la moto, ça peut le faire.
C'est ça, des petits trucs qui absorbent l'humidité, en fait, entre la moto et puis ta bâche. Comme ça, si jamais il y a des trucs qui se mettent. Ça.
Tu fais en sorte que l'environnement, l'air que tu que t'as entre ta bâche et ta moto soit pas le plus sec possible, mais que ça capture un maximum d'humidité dans ces petits sachets. Ça le fait.
D'accord, ok. Un autre petit cas pratique que je voulais voir avec toi, tu sais, comment par exemple une personne, là, on veut acheter une nouvelle moto, et des fois le problème c'est que pour bien vendre sa moto, il y a des petits défauts de peinture,
ouais.
On va acheter une peinture, voilà, on va mettre un coup de bombe,
ouais.
Ça se voit pas, nickel, et après toi tu viens, t'achètes une moto, elle te paraît super belle et tout, et deux mois après, il y a tout qui s'est barré, toute ta peinture, quoi, voilà. Donc comment, dans ce cas-là, comment faire, quoi? Déjà, comment faire pour bien voir quand tu achètes une moto, pour évaluer l'état de la peinture d'une moto?
Alors, une peinture qui a été refaite, ça se voit. C'est-à-dire que, sortie de concession, la moto, elle est brillante, elle est belle, elle est lisse. C'est ça. Une peinture qui a été refaite à la bombe, on va voir l'effet peau d'orange, qui va se faire très très fort. Même si le gars y allait légèrement, un petit voile à la con, on va le voir. On va le voir, ça se voit, et puis il faut vérifier... les angles, la plupart du temps, c'est à ce niveau-là, au niveau du réservoir, par exemple, que ça va pêcher. Au niveau aussi, quand on serre le réservoir sur les genoux, à ce niveau-là, faut regarder, il peut y avoir des défauts de peinture, le mec a pu, ou la nana a pu remettre un petit coup de bombe, ni vu ni connu. Au niveau du cadre, au niveau des cale-pieds, la plupart du temps, parce que ça frotte plutôt pas mal, c'est ici que la peinture se barre en général en premier, ils vont remettre un coup de bombe. Ça se voit bien. Mais faut refaire les choses correctement en général. Après, s'il est fort, il peut mettre un coup de bombe et poncer légèrement à l'eau derrière. Il y a moyen que ça passe. Mais non, ça se voit. Les coups à la bombe, ça se voit.
D'accord, ouais. Par exemple, j'ai un ami, il a acheté une moto, c'était son cas, tu vois, elle était sur le moteur, hein, tu vois, moteur était chrome normalement, et la bombe noire qui a été mise dessus, et après, il y a tout qui s'écaille, hein, ouais. Voilà, donc quoi faire dans ce cas-là, surtout quand c'est sur un moteur, tu vois, c'est pas...
Je pense qu'il a pas voulu penser à mal l'ancien propriétaire. Il s'est dit, chrome comme ça, j'ai peut-être envie de lui en donner un côté un peu plus agressif, et puis ça va peut-être être un petit peu plus à mon goût. Je vais mettre une grosse bombe de noir dégueulasse dessus. Il s'en fout probablement de la peinture qu'il a pris. Il a pas pris une peinture qui est faite pour les hautes résistances de température. Donc il a fait ça. Ça se décolle. Oh, c'est étonnant quand même, hein. Il a probablement mal préparé son support. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour préparer une surface, il va falloir créer des micro-rayures dessus avec du papier à poncer pour que la peinture accroche un maximum. Il a probablement pas fait ça. Bon, après, nous, ce qu'on peut faire derrière, on va pas pouvoir attraper le chrome. Malheureusement, je pense pas qu'on va pouvoir attraper le chrome. Faut y aller à tâtons. Mais on va se munir de notre meilleure perceuse, on va prendre un forêt dessus, de la paille de fer ou paille d'acier 000, on va enrouler ça sur le forêt, et on va passer entre les stries avec le forêt assez doucement. Bon, n'y allez pas franco, perpendiculaire au moteur, je vous assure que vous allez percer votre moteur, faut y aller tout doucement. De côté, on y va pour dégager toute la peinture qui a pu rester... miraculeusement, et puis on va falloir refaire une peinture dessus, ou un chrome, ou ne serait-ce que vernir par exemple. On veut un aspect peut-être un peu brossé sur le moteur, le plus proche de l'origine. On va faire un polir là-dessus, bon, ça va être long, je pense pas que ce soit intéressant, ou alors passer par un garage, vous avez la flemme, faites ça. Ça va être long pour le garage, pas pour vous. Ouais, faites ça.
Et la question, c'était aussi parce que pour refaire une peinture moteur, voilà, on a envie de le faire, mais sans enlever tout le moteur de la moto, tu vois. C'est ça, quoi. C'est ça pour refaire. Mais bon, comment on fait par exemple une peinture moteur, comme tu disais, le moteur ça chauffe. Déjà, c'est mieux qu'on prenne une peinture ultra haute température, qui est de couleur noire par exemple. Mais pour. Donc, c'est ça, après le piège, quand on applique une peinture haute température, derrière, il faut qu'on la cuise. Normalement, elle devait être chauffée un petit peu, il me semble.
Non, ça, c'est des peintures en poudre. Les peintures à poudre concurrent au four, ça, on peut pas le faire chez soi, malheureusement, à part pour les petites pièces. Mais bon, je me vois mal mettre mon moteur dans mon four, tu vois.
Non, mais voilà, c'est ça. Mais moi, je voyais même, tu sais, sur un... J'avais refait un barbecue, par exemple, et je voyais sur la notice, là, j'avais acheté une bombe peinture aux températures à action.
Ouais.
Tu vois, le truc qui coûte 4€, quoi.
Ouais, ouais.
Donc, voilà, ça... Voilà, c'est vrai que... Bon, il y a tout, en fait. T'as différentes gammes. C'est un truc... On va parler de ça après, je vais te poser la question aussi sur ça. Mais, et je voyais bien sûr la notice, ils disent qu'après, il faut faire chauffer quand même un petit peu le truc, tu vois. Donc j'avais fait un feu dans le barbecue, et puis voilà, quoi, tu vois. Donc là, sur le moteur, bon, on peut appliquer la peinture, et derrière, ce qu'on fait, bon, on va faire une balade, on va faire tourner la moto un petit peu, non, pour faire chauffer le moteur. Est-ce que ça chauffe la peinture?
Ouais, mais je conseillerais pas, par exemple, imaginons, on peint le moteur, donc on fait attention, bien sûr, à tout élément externe au moteur, on va bien cacher l'intégralité, on va se prendre... Quand on commande des colis, ce genre de choses, la plupart du temps, il y a du papier craft dessus, comme pour atténuer les chocs, si jamais il y a des chocs. On va prendre ce papier craft, on va fendre de la borne cache, imaginons, à action, elle est très bien, on s'en fout, ça colle pas très bien, mais c'est pas grave.
C'est ce qu'on veut, ça colle pas bien.
Ben, c'est ce qu'on veut, mais déjà on va dégraisser maximum la surface pour faire en sorte que ce papier de masquage va coller un minimum.
Ouais.
Déjà, on va faire en sorte de vraiment couvrir toutes les zones qu'on ne veut pas peindre. Et pour pouvoir peindre notre moteur, bien sûr, il va falloir préparer, faire des micro-rayures dessus, vous avez l'habitude, pour faire en sorte que la peinture adhère maximum. Une fois que la peinture est posée, on va pas partir en balade tout de suite. Parce que la peinture, elle est pas sèche.
Faut
qu'elle sèche déjà. Ne serait-ce qu'en surface. La peinture comme ça, elle va être peut-être un petit peu épaisse. Donc elle va pas sécher à cœur tout de suite. Moi, je conseillerais de faire ça par beau temps. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité de chauffer une pièce à 25 degrés pour faire en sorte que ta peinture soit correctement appliquée. Donc on va faire ça par beau temps, quand il fait chaud, dehors, bon voilà. On va faire en sorte de pas se mettre dans un espèce de courant d'air où est-ce qu'il peut y avoir du sable qui se met dans la peinture. On va essayer d'avoir le résultat le plus propre possible. Appliquer sa peinture en bombe tranquillement, de gauche à droite. Jamais d'arrêt. Quand on pulvérise par exemple sa peinture en bombe, on va jamais rester immobile sur la zone qu'on va peindre. Il faut toujours faire des mouvements. Toujours faire des mouvements, sinon on risque d'avoir une accumulation de peinture et des coulures. Ça, on essaie d'éviter un maximum. Après, s'il y a coulure, c'est pas bien grave.
Ok.
Ouais. D'accord, ouais. Bon, bah voilà, et après, avec ça, ça devrait avoir rattrapé un petit peu le...
Un petit peu le carnage, ouais.
Les dégâts qui ont été faits, quoi, ouais. Et voilà, et puis cette autre petite question, c'est quel type de peinture acheter? Et de vernis aussi, parce que par exemple, bah, chez Action, on trouve du vernis à 4€, après t'as, chez Noroto, t'as du vernis à 15€ aussi. C'est quoi la différence entre ces deux-là? Et puis au niveau des peintures, ça va être quoi un petit peu le truc à choisir?
Ouais, ce que je conseillerais à ce niveau-là, c'est de prendre du matériel professionnel. Certes, ça va peut-être être un petit peu plus cher, mais au moins on est sûr du résultat et on le fait qu'une fois, une seule fois. Et ça suffira amplement. Et où est-ce qu'on se fournit? Donc oui, les peintures Noroto peuvent être intéressantes. Peut-être un petit peu cher en bombe, surtout, comme tu disais, à 15 balles la bombe. On va plus essayer d'aller sur Internet, malheureusement. Et on va aller chez des sites spécialisés. Par exemple, on a peinturevoiture.fr, qui sont plutôt pas mal en termes de délai de livraison. On est sur une semaine, c'est bien. Puis pour les vernis, par exemple, pour les vernis, ça va être très bien. On va prendre du vernis 2K, c'est du vernis bicomposant. Avec un petit livret, donc avec un durcisseur dans la boue. Et on va pouvoir pulvériser ça sur son petit bébé, sa moto, sans trop se soucier de la qualité du produit. C'est là que c'est de la bonne qualité. Après, si vous avez, par exemple, imaginons que vous avez un compresseur chez Parkside, vous pouvez tout à fait utiliser un pistolet à peinture là-dessus. Le résultat sera jamais incroyable, mais vous aurez la fierté de vous dire « c'est moi qui l'ai fait
». Et du coup, tu disais combien de couches de peinture? Quand on en met, on met deux couches, trois couches?
Ouais, deux couches. La plupart du temps, la peinture pour les bases, c'est deux couches. Deux couches, après, vous pouvez en rajouter si jamais la couvrance est pas intéressante. Une troisième couche, pourquoi pas, une quatrième. Et puis, de toute façon, on va poncer légèrement la peinture une fois sèche, bien sûr. Donc entre chaque couche, on va prendre 5-10 minutes le temps de sécher. Ouais. Le temps que la peinture soit légèrement collante pour accueillir la couche suivante. Faites quelques couches comme ça, 3, 4, max, hein, maximum 4. Suite à ça, on va laisser reposer le temps indiqué sur la bombe, à bonne température, surtout si vous êtes dehors. Et on va poncer légèrement la surface de la peinture au grain. Moi, je conseillerais le 320 ou alors le grain 400 tranquillou.
Ah ouais, avec un grit de 400.
Ouais. Poncez à la main, surtout pas la ponceuse, parce que là où il y a des arêtes, vous risquez de découvrir. Donc retirer l'intégralité de votre peinture les arêtes. C'est... Et ça, on évite. Enfin, ça rajoute du temps de travail, on va éviter de faire ça. Donc suite à ça, vous allez pouvoir appliquer votre vernis en bombe 2K.
Après le ponçage,
il laisse pas de marque sur la peinture comme ça que t'as fait, non?
Non, quand vous poncez, poncez tranquillement au 400, pas de soucis. Si vous avez vraiment peur de faire des grosses rayures, vous mettez un petit peu d'eau, ponçage à l'eau, à la main, ça va très bien se passer. Petit coup de vernis juste après dessus, très bien, ça marche bien. En fait, le fait de poncer sa peinture, déjà ça va créer une accroche supplémentaire. C'est tout à fait possible de vernir par-dessus sa peinture sans poncer, mais on risque d'accentuer l'effet peau d'orange.
C'est sûr. D'accord, ok. Ouais. Et après, avec ce bicomposé, où il y a déjà le vernis bicomposé, tu disais, le 2K.
Ouais, bicomposant,
d'accord.
Ouais.
Et en fait, le mélange se fait à l'intérieur de la bombe, tu l'appliques.
Ouais, c'est
un truc où tu as mélangé deux produits pour le faire.
Non, c'est assez simple d'usage, ce genre de choses. On lit bien la notice qu'il y a sur la bombe, de toute façon. Et quand j'ai acheté ce genre de choses il y a très longtemps, il y avait une espèce de goupille à tirer derrière la bombe, en dessous de la bombe. Il fallait tirer la goupille pour percer la capsule de durcisseur qu'il y avait dans la peinture, enfin dans la bombe de peinture, de vernis, pardon. Bien secouer correctement très longtemps le produit, et puis on vernise.
Voilà, et puis après, voilà, tu laisses sécher ton. Tu mets qu'une couche de vernis, c'est suffisant, non? Deux couches, d'accord, ouais. Deux couches de vernis, et puis après, voilà. Et t'as différents types de peinture, et les vernis aussi. Moi, j'avais essayé différents trucs, j'avais essayé un vernis brillant,
ouais.
Et le résultat, ça faisait vachement de reflets très brillants, tu vois, au soleil, ouais. Et après, t'as du vernis, j'avais du vernis satiné.
Ouais.
Donc, différents effets, c'est ça, sur ces vernis?
Ouais, bien sûr. Bah, y a trois types de vernis, en général. On va avoir le mat, qui donne un effet mat, hein, classique. Le satiné, donc légèrement plus brillant que le mat, mais sans être brillant forcément, et le vernis brillant. Après, tout dépend de la quantité qu'on pulvérise, c'est aussi quelque chose qui doit se maîtriser. La plus simple à pulvériser, je dirais que c'est le brillant, parce que...
Ça brille pareil partout. Quoi.
Ça brille pareil, c'est assez homogène, c'est ça. Que, par exemple, un vernis mat, si jamais on est un peu lourd sur le...
Ça va se voir.
Déjà, ça va se voir, et puis ça va plus être un effet satiné que mat.
Ah d'accord.
Ouais.
Ah ok, d'accord.
Bon bah écoute, je pense moi j'ai fait le tour un petit peu avec ça, ces différents cas pratiques pour aider des copains et puis pour voir quelques petits trucs pour moi-même aussi.
D'accord.
Alors j'espère que les auditeurs, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire aussi, puis on verra pour faire une autre petite émission avec Félix à l'occasion. Après sinon toi tu penses qu'on a fait le tour, non?
Bon, il y aura toujours des choses à redire de toute façon, mais on a touché l'aspect général de la chose. Donc, comme disait, si jamais il y a besoin de faire un rappel sur certaines choses, n'hésitez pas.
Ça marche. Bon, merci à toi. Et puis, préparez bien vos motos tous pour l'été. Et appréciez vos motos. Enjoy your ride, comme on dit. Merci Félix, à une prochaine.
À bientôt.
Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu cette interview avec Félix. On arrive dans notre dernière partie de l'émission. Il nous reste encore un petit peu de temps, une dizaine de minutes. Je crois qu'on va terminer cette émission avec un titre de Cro-Mags, On va écouter un titre extrait de leur album Near Death Experience. J'aime bien cet album, il y a des titres qui sont super cool dessus. Le titre Time I Am, il est vraiment génial. Peut-être qu'on l'écoutera à un autre moment. Là, je vais passer, je crois, le titre Kali Yuga. Et ça va être pour moi aussi l'occasion de parler un petit peu de ce qu'est le Kali Yuga. Ça, c'est un terme qu'on entend dans la philosophie védique, en fait, dans la conception védique du temps. C'est divisé en différents cycles. Alors voilà, je vous parle de ça parce que l'émission Ahimsa et aussi et toute la philosophie un petit peu qu'on développe dans Ahimsa, c'est basé aussi tout autour de ça. Hein, voilà, on est aussi un moto-ministry, donc c'est pour ça qu'on parle un petit peu de moto. Notamment, bah, cette émission, voilà, c'était une émission entièrement dédiée à la moto. Nous, on est un club, un ministry, c'est ça, ça veut dire un moto-club de gens, de bikers spiritualistes. Donc nous, notre spiritualité, elle est basée sur les Védas, qui est une spiritualité, disons une philosophie, quoi. Ça peut, disons que quelqu'un peut être chrétien et puis aussi adhérer en fait à la philosophie védique, puisque en fait c'est vraiment la mère de toutes les civilisations, hein, les Védas. C'est très très ancien, tellement ancien en fait, si vous voulez, la conception du temps. Quand on s'intéresse à la conception du temps telle qu'elle est décrite dans les Védas, ça donne mal à la tête, quoi. C'est assez vertigineux. Voilà, ça va complètement au-delà un petit peu de la conception du temps qu'on peut avoir tel qu'on connaît, voilà, avec tout ce background, sous ce fond chrétien, puisque bon voilà, nous le temps, l'année zéro, c'est la naissance du Christ. Donc si on se base sur ça, ouais non, attendez, je vais recommencer, je passe pas par ça, on va commencer plutôt par voilà. La conception védique du temps est donnée en forme de cycle. Il y a différents cycles, en fait, et ces cycles ont différents âges. Nous sommes dans l'âge du Kali Yuga. C'est de ça dont je voulais parler. Le Kali Yuga, donc on va écouter un titre de Cro-Mags juste après qui s'intitule Kali Yuga. Donc le Kali Yuga, voilà, c'est le dernier des cycles du temps dans la conception védique. Donc il y a quatre cycles, le Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga et le Kali Yuga. L'ensemble de ces quatre cycles donne une année en nombre d'années solaires, 4 320 000 années solaires. Voilà. Le cycle que dans lequel nous vivons actuellement, le Kali Yuga, c'est un cycle qui dure 432 000 années. Voilà. Donc ça donne des échelles de temps beaucoup plus grandes, en fait, si vous voulez. Le cycle qui précédait le Kali Yuga, le Dvapara Yuga, il dure 864 000 années. Donc vous vous doutez bien que pendant toutes ces années-là d'existence terrestre, il y a eu aussi d'autres civilisations qui étaient sur Terre. Voilà, tout ça c'est vraiment compté, en fait, et raconté dans les différents livres des Védas, hein, le Mahabharata... voilà, il y a énormément de livres, c'est la littérature aussi est très très grande, et il y a toujours des histoires aussi, comme par exemple le Ramayana, cette très belle histoire du roi Ramachandra qui a été célébré la semaine dernière, lui se place dans le Tetrayuga, qui est donc le deuxième yuga, celui-ci le Tetrayuga, il dure 1 296 000 années. Et le premier cycle, c'est le Satya Yuga. Il dure 1 728 000 années. Voilà, donc dans ces différents cycles, en fait, il y a aussi, comme je vous disais, ben, une population voilà, qui est sur la planète. Hein, mais les gens sont décrits de manière beaucoup... Ils sont plus grands, par exemple, hein, dans le Dvapara Yuga, qui est celui qui précède le Kali Yuga. Les hommes ne faisaient pas... 1m80, 2m comme actuellement, mais plutôt dans les 6 mètres. Voilà, et ça c'est aussi quelque chose que vous retrouvez par exemple dans le... Je crois que c'est dans l'Ancien Testament, hein, où il disait bien que les gens étaient d'une taille beaucoup plus grande. Donc voilà, même en fait, si vous voulez, c'est pour ça que je disais que c'est quelque chose qui se recoupe avec la chrétienté par exemple, puisque on retrouve aussi certaines similarités. Voilà, et donc en fait, dans ces différents âges correspond aussi donc différentes caractéristiques physiques, mais également différentes caractéristiques psychique et spirituel, on va dire, voilà, le niveau de conscience se dégrade de plus en plus, en fait. Donc dans le Satya Yuga, qui dure très très longtemps, l'état de conscience des gens était l'état de conscience le plus élevé. Petit à petit, ça se dégrade dans le Tetra Yuga, dans le Dvapara Yuga également, et dans le Kali Yuga, l'âge que nous vivons actuellement, est l'âge où l'état de conscience des gens, en fait, est le plus dégradé. Donc voilà, pourquoi je vous partage en fait tout ça, c'est juste ce petit mot d'encouragement, si ça peut être, c'est pas d'être défaitiste, de se dire oh, on est dans le Kali Yuga, c'est foutu, mais bon, de relativiser un petit peu en se disant que bah, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer à vivre notre vie au quotidien sont à balancer avec ça en fait, hein, voilà, c'est du fait de cet âge-là, du Kali Yuga, différentes choses qu'on peut voir dans notre société aussi se dégrader, c'est le fait du Kali Yuga. Donc voilà, mais il y a un refuge en fait à travers tout ça, c'est ce qu'on appelle à travers de la philosophie, le transcendantalisme en fait, où on peut aller au-delà de cette existence et de se connecter au plus profond de nous-mêmes dans notre âme, qui elle est au-delà de l'influence de tous ces sages-là, de tous ces âges-là. Voilà, donc bon, c'est ça aussi qui est raconté un petit peu dans ce titre de Cro-Mags qu'on va écouter. Donc voilà, c'est du métal, hein, du gros hardcore crossover Cro-Mags, hein. Ils mettent aussi cette petite touche-là spirituelle à l'intérieur, donc bah voilà, moi j'apprécie pas mal ce groupe pour ça. Je vous invite à écouter un petit peu plus ça, et puis bah, à vous renseigner aussi si vous voulez sur la philosophie védique. Voilà, on pourra en parler un petit peu plus dans d'autres émissions. Et lire notamment cet excellent livre qui est la Bhagavad Gita. Voilà, peut-être on fera une émission sur la Bhagavad Gita. En attendant, ben, on se laisse avec ce titre de Cro-Mags. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et apprenez à surfer sur le Kali Yuga, hein, à lâcher prise, parce que voilà, c'est la seule chose que vous pouvez faire dans ce monde difficile. Allez, à bientôt, à la prochaine.
I've got the PMA, Positive Mental Attitude.
Ouais, nous aussi, dans le magazine AMSA Non Violence, on a la PMA. Alors retrouvez-nous un samedi sur deux, de 15h à 16h. Ouais, en compagnie Ngomata, on s'écoute de la musique positive en discutant des choses qui sont bonnes pour notre cœur et nos âmes. Alors à très bientôt dans AMSA Non Violence, le magazine de la vie positive.
Boom, peace, PMA baby.